Bonjour tout le monde, bon réveil. Aujourd'hui, on va parler de bande dessinée avec le philosophe Tristan Garcia. Pour le festival d'Angoulême, j'avais demandé à Tristan Garcia de nous expliquer pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, la bande dessinée est intimement liée à l'enfance. Et pourtant, depuis quelques décennies, on le sait, la bande dessinée adulte existe, s'adresse aussi bien aux grands et aux petits, et pourtant, on continue à parler de bande dessinée en pensant tout de suite aux enfants ou à l'enfant qu'on a été. L'art des âges et des images, par Tristan Garcia.
Le mystère de la bande dessinée, c'est qu'au fond, il s'agit d'un art jeune. Il s'agit d'un art très jeune, mais dont il est difficile de dater exactement la naissance. C'est pas du tout la même chose que pour le cinéma, une invention technique dont il est très facile, a priori, de dire que ça commence en 1895. Classiquement, la bande dessinée est censée commencer à peu près au même moment. La bande dessinée, si on ouvre un livre d'histoire, c'est 1896, avec une bande qui s'appelle le Yellow Kid de Utko. Le problème, c'est que très vite, quand on s'intéresse à la bande dessinée, on est amené à une sorte de régression à l'infini, parce qu'on est sans cesse condamné à trouver des précurseurs à la bande dessinée. Donc les historiens s'enfoncent dans une sorte de descente sans fin, par laquelle ils ne cessent de reconnaître des bandes dessinées d'avant la bande dessinée. Et à mesure qu'ils reconnaissent des sortes de bandes dessinées d'avant la bande dessinée, il devient de plus en plus difficile de déterminer une origine de cet art, de comprendre à quel moment il est vraiment né. Très vite, je sais pas, il y a des historiens comme Roger Sabin, par exemple, qui ont commencé à voir dans les tapisseries médiévales, la tapisserie de Bayeux, une sorte de préhistoire de la bande dessinée. Bien dans les miniatures persanes, les miniatures de Tabriz, de reconnaître que, après tout, il y avait aussi des petites images qui pouvaient être organisées en séries narratives. Ou bien dans les grands polyptiques flamands, de la peinture flamande, les triptyques, etc. Ou bien dans les fresques de Giotto, par exemple, qui racontent l'histoire de Saint-François. Après tout, on a bien une histoire qui est racontée par des images successives. On voit Saint-François d'Assise qui reçoit son manteau, puis Saint-François d'Assise qui fait don de sa tunique, puis le pape Innocent III qui rêve que François va soutenir l'église de Latran, etc. Et on a une série comme ça, où on a les régisseurs du duc de Berry au Moyen-Âge, avec les frères de Limbourg aussi, avec l'impression qu'on a après tout quelque chose comme des formes archaïques de bande dessinée, c'est-à-dire des suites d'images, d'illustrations, qui paraissent raconter une histoire. Évidemment, plus on s'enfonce, plus on va vers une bande dessinée primitive qui pourrait remonter à la préhistoire. Après tout, pourquoi ne pas trouver dans la peinture rupestre, dans la peinture pariétale, dans les fresques de Lascaux, l'origine même de la bande dessinée ? Des suites d'images racontant une chasse, par exemple, la chasse d'animaux. La première question de la bande dessinée qui est soulevée par l'art même de la bande dessinée, c'est la question de savoir si c'est un art à part et si on peut déterminer le moment de sa naissance. Parce que si on ne peut pas déterminer le moment de sa naissance, la bande dessinée petit à petit devient un genre de peinture. Ou bien elle devient un genre de littérature. Et elle devient au fond un art bâtard. Non seulement un art qui n'est jamais né, mais un art mal né. Un art hybride, un art qui ne serait pas pur et un art qui n'aurait pas d'origine, qui n'aurait pas de filiation, qui n'aurait pas d'ascendance. La question, c'est donc d'arriver donc à regarder en face les cultures humaines, par exemple la culture persane, la culture occidentale, mais aussi la culture japonaise avec les rouleaux bouddhiques, etc. Et d'y voir des sortes de préfigurations de la bande dessinée, mais d'arriver à comprendre ce qui fait que malgré tout, ce n'est pas tout à fait de la bande dessinée. Quelque chose, à la fin du 19e siècle, dans des journaux essentiellement américains, puis par la suite dans des journaux italiens, français, anglais, et quelques années plus tard dans des journaux japonais, une nouvelle forme à destination des enfants, essentiellement, est née, qui n'était pas la même chose que, par exemple, les fresques de Giotto, que j'évoquais il y a quelques instants, à Assise. Alors, regardons par exemple les fresques de Giotto, entrons dans l'église d'Assise, et demandons-nous qu'est-ce qui fait que ce type de fresque n'est pas de la bande dessinée. La différence, au fond, elle est très simple, elle est évidente. C'est que lorsque vous voyez la vie de Saint-François d'Assise telle qu'elle a été peinte par Giotto, vous voyez immédiatement le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Le but des fresques, comme le but de la majorité des images en série, des grands vitraux par exemple, qui étaient à destination religieuse dans la culture occidentale, c'était d'exposer une histoire du point de vue de Dieu, c'est-à-dire du point de vue de l'éternité. Une histoire telle que le premier moment et le dernier moment étaient contemporains. Ce qui change avec la bande dessinée, c'est la laïcisation du regard. C'est l'idée qu'on va avoir une succession d'images, mais qui va être feuilletonesque, qui va être à destination des enfants, qui va devoir exciter les enfants précisément parce qu'ils ne connaissent pas la suite. La clé de compréhension de la bande dessinée, c'est le à suivre. C'est le à suivre ou le petit index qu'on trouvait sur certaines bandes dessinées, souvent, qui indiquait qu'il fallait tourner la page ou qu'il fallait attendre la semaine d'après. C'est l'idée qu'en bande dessinée, vous avez, que ce soit dans les journaux ou dans les albums, toujours des planches qui sont recouvertes par la planche suivante et qui viennent recouvrir la planche précédente. C'est-à-dire que vous ne voyez plus le début et la fin de l'histoire simultanément. Vous n'avez plus le point de vue de Dieu sur une série d'images ordonnées. Vous avez le point de vue de l'homme qui est condamné au présent, qui ne voit déjà plus le passé et qui ne voit pas encore l'avenir. Vous avez donc l'invention d'une série graphique dans les cultures humaines avec un regard qui n'est plus un regard religieux, mais un regard laïcisé, avec une chaîne d'événements qui sont représentés par une chaîne d'images, mais vous êtes condamné à être localisé à un moment de cette chaîne. Et vous avez un principe de récit feuilletonesque qui va vous faire évoluer le long de cette chaîne. Alors, ce faisant, on a réglé un premier problème qui est le fait de distinguer ce qu'on appelle la planche, c'est-à-dire l'ensemble, l'enchaînement des images, de la fresque, des vitraux ou des grands rouleaux bouddhiques, par exemple. Mais on n'a pas réglé le deuxième problème. Le deuxième problème, c'est de savoir ce qui distingue une image de peinture, par exemple, d'une image de bande dessinée, ce qui distingue un tableau d'une case. Vous avez un argument, généralement, chez ceux qui déprécient la bande dessinée, aussi bien que chez ceux qui veulent essayer de relever culturellement la bande dessinée, qui consiste à isoler une case de bande dessinée à la comparer à une peinture. Ceux qui méprisent la bande dessinée vont dire « Bah regardez, on va prendre une case de Mizuki, on va la mettre à côté d'un tableau d'Hiroshige, ça ne tient pas. Prenez une case de Druyer, mettez-la à côté d'un tableau de Gustave Doré, ça ne tient pas. Prenez un Hergé, mettez-le à côté de Monet, ça ne tient pas. » Et inversement, je crois que commettent la même erreur ceux qui veulent légitimer la bande dessinée et qui donc l'envoient dans les galeries d'art et isolent des cases comme si c'était des tableaux et disent « Mais regardez comme c'est magnifique, une case de Franquin, une case de Tezuka. » Ce qu'ils n'ont pas compris, ceux qui veulent légitimer la bande dessinée et ceux qui la méprisent, c'est que un tableau, une peinture est systématiquement, en tout cas dans la tradition occidentale, une petite machine à conserver le regard, à capturer le regard. On sait très bien, Erwin Panofsky l'a montré pour l'invention de la perspective, par exemple dans la peinture occidentale de la Renaissance, qu'un tableau est toujours un dispositif complexe, hein, avec par exemple l'invention de la profondeur de champ dans la perspective, pour capturer le regard humain et faire en sorte qu'on soit prisonnier du cadre et que l'œil se balade dans le tableau en n'ayant plus envie d'en sortir, hein, de manière à ce que le tableau soit comme un petit monde dans lequel l'œil soit enfermé. Alors que la case de bande dessinée, c'est l'inverse. Une bonne case de bande dessinée, c'est certainement pas une image qui est là pour capturer le regard, c'est une image qui est là pour expulser le regard. Le but d'une image de bande dessinée, c'est de faire en sorte que le regard, le plus rapidement possible, en rentrant dans l'image, en sorte, pour qu'il aille dans l'image suivante. Le but, au fond, de la bande dessinée, c'est d'arriver à produire une image stable du mouvement. Une image stable parce qu'on n'est pas au cinéma. Au cinéma, toute image vient tuer l'image précédente. C'est comme Chronos qui mange ses enfants. L'image de cinéma est une image présente qui est sans cesse en train de dévorer les images précédentes. Alors qu'en bande dessinée, il y a une sorte de pacification qui est qu'on a un enchaînement des images, mais toute image coexiste avec les images passées et avec les images futures. Il y a une sorte de pacification qui fait que la bande dessinée est un art, je crois, qui ne connaît pas la tragédie du temps. Parce qu'en bande dessinée, au fond, le passé, le présent et le futur coexistent pacifiquement. Aucune image n'est là pour détruire l'image précédente ou n'est détruite par l'image suivante. De telle sorte que la bande dessinée, pourrait-on dire, c'est l'invention, par un regard laïque et non plus divin, sur l'enchaînement des images dans le temps, c'est l'invention d'une forme de consolation vis-à-vis du pouvoir destructeur du temps. Ce sont des images qui, à destination des enfants, chuchotent aux enfants à partir du 19e siècle, chut, ne t'inquiète pas, le passé n'est pas vraiment passé. D'ailleurs, tu peux sans cesse venir le relire, tu peux sans cesse venir aux images précédentes. Et par là même, la bande dessinée a été une forme d'éducation du regard et d'éducation à la lecture à destination des jeunes enfants à partir de la fin du 19e siècle, qui, me semble-t-il, tenait une thèse sur l'identité. Parce que l'enfant qui commençait à lire des strips dans les journaux à partir de la fin du 19e siècle, en repérant des identités d'image en image, en apprenant par son regard à passer d'image en image et à voir des choses se répéter. Il voyait le même décor, mais le personnage bougeait d'image en image. Eh bien, en voyant que les choses se répètent et qu'il y a plusieurs occurrences de la même chose d'image en image, mais qu'il faut les relier les unes aux autres pour comprendre le mouvement, pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer, l'enfant comprenait qu'il allait devoir lire sa propre vie de la même manière. Il allait lui-même être une infinité d'occurrences différentes de lui-même. Il allait être un enfant, un adolescent, un adulte. Et ça, c'était voir sa vie de toute éternité et voir qu'effectivement, il allait exister plusieurs versions de lui-même. Mais que pour être un sujet, il allait lui falloir apprendre à se lire, c'est-à-dire à passer d'une version de lui-même à la version suivante. De ce fait, il y a une différence majeure entre l'histoire de la peinture et l'histoire de la bande dessinée. C'est que l'histoire de la peinture, avec différents avatars, hein, à l'Antiquité, au Moyen-Âge ou à l'âge classique, a souvent posé la question de l'image seule et du coup a posé la question de l'être même des choses. Je pense par exemple à un texte fameux de Heidegger sur les chaussures de Van Gogh, où Heidegger voit dans le tableau de Van Gogh la manifestation de la présence même des chaussures de Van Gogh, hein, qui sont couvertes de boue, l'espèce de poids de l'être qui apparaît dans la peinture. La peinture a souvent posé la question de l'être. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? De l'apparition d'une chose. Parce que la peinture, c'est toujours, ou presque, il y a des séries, hein, il y a les séries des impressionnistes, c'est toujours une image seule. Alors dans la bande dessinée, l'être n'a pas de poids. L'être n'a pas de poids parce que toutes les choses sont répétées. Pour qu'une chose ait du sens en bande dessinée, il faut qu'un même décor se répète. Ou qu'un même personnage, il faut que Tintin, il faut que Spirou apparaissent 10 fois, 100 fois. Sur 100 images. Du coup, c'est comme si l'être des choses était vidé. On voit bien que quand on lit une bande dessinée, il n'y a pas de poids ontologique des choses. C'est comme si les êtres avaient perdu le poids de leur être parce qu'ils se répètent. Du coup, la question de la bande dessinée, ce n'est pas la question de l'être des choses, de leur présence. La présence lourde de sens, chargée ontologiquement. La question de la bande dessinée, c'est la question de l'identité et la différence. C'est le fait de voir que toutes choses se répètent et pourtant les choses sont différentes. Et comment est-ce qu'on passe d'une chose à une chose à la fois identique et en même temps légèrement différente. Et c'est ce jeu du regard dans la bande dessinée qui fait que la bande dessinée présente à l'enfant un monde qui est délesté de son poids. C'est ça qui fait que certains amateurs de peinture trouvent que la bande dessinée est trop légère, c'est un art léger. Mais il faut le prendre en un sens profond. C'est un art léger parce que c'est un art qui est débarrassé du poids de l'être. C'est un art où nous essayons de voir, dans la répétition éternelle des choses, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui demeure le même. Et c'est un art qui, de ce fait, je crois, apprend à l'œil, qui sait voir une bande dessinée, à l'œil aiguisé, qui apprend qu'au fond, il faut toujours se rapporter de manière double au monde. Il faut à la fois le voir et le lire. Il faut être capable de voir le monde, de voir les choses se répéter, et en même temps, il faut être capable de lire le monde, de le voir se déployer dans le temps, d'identité en identité, de différence en différence. Pourquoi la bande dessinée s'est d'abord adressée pendant une quarantaine d'années exclusivement aux enfants? Alors il y a une raison industrielle au caractère enfantin de la bande dessinée, c'est que la bande dessinée elle est apparue avec ce qu'on appelle des strips, c'est-à-dire des bandes, d'abord dans les journaux américains, un petit peu plus tard dans les journaux européens, et elle est apparue pour combler les blancs dans les journaux à grand tirage de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, en gros, la bande dessinée avait cette fonction. S'il n'y avait pas de nouvelles de dernière minute, il restait un blanc dans le journal et on comblait le blanc en mettant une bande dessinée. Un certain nombre de grands industriels américains se sont aperçus que ces bandes faisaient vendre les journaux parce que les enfants demandaient à leurs parents d'acheter les journaux dans lesquels il y avait leur bande préférée. Donc ça va être très vite Little Nemo, par exemple, de Winsor McCay, ce petit enfant qui s'endort, qui va dans le monde des rêves, Slumberland, et qui chute à la fin de chaque bande dessinée de son lit en se réveillant, avec la voix de sa mère qui rentre à chaque fois dans la case et qui lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Très vite, ces personnages d'enfants, Pim Pam Poum aussi par exemple, les Katzenjammer Kids, ou les enfants dessinés par le peintre Lionel Feininger, ou les enfants de Gasoline Alley, toutes ces bandes américaines du début du XXe siècle vont devenir tellement prisées par les enfants que les journaux vont en faire un argument de vente. Chaque journal va avoir sa bande, fondamentalement. C'est quelque chose qui va se diffuser ensuite en Europe et au Japon aussi, avec la première vague japonaise. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que cet art donc s'est adressé d'abord aux enfants, évidemment comme argument de vente, mais pourquoi la bande dessinée, alors il y a quelques exceptions, ne s'est pas développée à l'usage des adolescents ou des adultes, dans un premier temps. La seule exception, peut-être, ce sont les bandes clandestines qui étaient diffusées, par exemple ce qu'on appelait les Tijuana Bibles, qui étaient des bandes érotiques, là, évidemment, à l'usage des adultes, mais qui étaient des bandes qui n'étaient pas vraiment publiées, qui circulaient sous le manteau aux États-Unis. Pourquoi donc, pourquoi l'enfance ? Pourquoi est-ce que la jeunesse de cet art s'est adressée aux enfants ? Il me semble que la première raison, c'est l'apparition d'une nouvelle figure de l'enfant aux États-Unis, en Europe, en Occident, en tout cas à la fin du 19e siècle. Il y a deux phénomènes. D'abord, dans les classes moyennes, dans la bourgeoisie du 19e siècle, il y a l'apparition d'une nouvelle pédagogie au 19e siècle qui explique aux parents, qui leur explique qu'un enfant a un imaginaire à lui et qu'il doit donc avoir des lieux à lui. C'est le moment où on décide de réserver une chambre à soi à l'enfant, pour reprendre une expression de Virginia Woolf, hein, la chambre à soi, mais non pas pour la femme, ici pour l'enfant. C'est l'idée selon laquelle un enfant, pour s'épanouir dans la pédagogie moderne, doit avoir un lieu qui lui est réservé, il ne doit pas dormir avec les parents, il doit avoir son intimité. Et cette idée de l'intimité de l'enfant est fondamentale. Elle va de pair, à mon sens, avec deux figures, la chambre de l'enfant et le coffre à jouets. La démocratisation du coffre à jouets. C'est-à-dire, ce sont deux lieux. La chambre, c'est le lieu dans lequel est l'enfant, et le coffre à jouets, c'est le lieu qui est dans la chambre et qui regorge de tous les jouets et de tous les livres qui, eux-mêmes, contiennent l'imaginaire de l'enfant. Ce sont deux lieux dont la bande dessinée va être en quelque manière la métaphore. On pourrait dire que la planche de bande dessinée, ou la case de bande dessinée, c'est la chambre de l'enfant. On le voit très bien avec Little Nemo, dont j'ai parlé juste avant. Dans Little Nemo, donc, la planche est toujours extrêmement bien structurée, et Little Nemo tombe à chaque fois de son lit dans la dernière case, et, fait important, on ne voit jamais sa mère. Parce que la voix de l'autorité de sa mère passe dans la case, mais sa mère, elle, reste toujours sur le seuil de la bande dessinée. Elle ne rentre pas dans la case. Pourquoi ? Parce que la case, c'est la chambre de l'enfant, c'est l'intimité de l'enfant. Donc dans les classes moyennes se diffuse cette idée qu'il y a une intimité de l'enfant, il y a une intimité de l'imaginaire de l'enfant. Et bien la bande dessinée va être, pour ainsi dire, l'expression par des dessins dans un art, d'un art qui représente l'intimité de l'imaginaire de l'enfant. C'est là où va se développer le monde propre, les rêveries propres à l'enfance moderne. La deuxième raison, c'est l'abandon progressif en Occident de ce qu'on appelait les rites de passage. Il y a cet anthropologue, jadis célèbre, mais un peu moins pratiqué aujourd'hui, qui s'appelait Arnold van Gennep, qui a beaucoup étudié les rites de passage et qui divise tout rite humain en trois moments. Il y a le moment préliminaire, il y a le moment liminaire et le moment post-liminaire. Le moment préliminaire du rite, c'est le moment, dit-il, où on quitte la rive, par exemple, de l'enfance et où on ne voit pas encore ce vers quoi on va. Le moment liminaire, c'est le moment où on est pris entre deux moments. On voit derrière soi l'âge qu'on est en train de quitter, on voit devant soi l'âge qui va être qu'on va embrasser. Et le moment post-liminaire, c'est le moment où, par exemple, on rentre dans l'âge adulte. Et le propre de tout rite, nous dit van Gennep, c'est qu'il exprime une structure temporelle dans une structure spatiale. C'est-à-dire, le propre du rite, c'est de transformer une continuité temporelle, parce qu'après tout, le temps passant, on ne sait jamais vraiment très bien quand on cesse d'être un enfant, quand on commence à devenir un adolescent ou un adulte. Pourquoi ? Parce que c'est un processus continu. C'est une variation comme ça, continue. Donc, il faut, dans les cultures humaines, l'exprimer par l'espace. Et il faut l'exprimer par un seuil. C'est-à-dire qu'il faut franchir symboliquement un seuil pour passer de l'espace de l'enfance à l'espace de l'adolescence, ou de l'espace de l'adolescence à l'espace de l'âge adulte. Bah, la bande dessinée va être l'art qui, en quelque sorte, va, sous nos yeux, concrétiser le fait que, puisqu'il y a de moins en moins de rites de passage, il faut que l'enfant apprenne par lui-même, dans son imaginaire, comment est-ce qu'on passe d'un âge à un autre. Et le passage des images, les unes aux autres, en bande dessinée, est en quelque manière l'analogue des rites de passage. On pourrait dire, au fond, qu'à mesure que la société occidentale perdait des rites de passage, elle gagnait un art qui apprenait au regard de l'enfant comment changer, tout simplement. Comment devenir un autre. Comment abandonner sa peau morte, abandonner l'image d'avant et passer dans l'âge suivant. Comment devenir ? Alors, dans un premier temps, la bande dessinée a figuré ça de manière un peu fruste, pourrait-on dire. Parce que dans un premier temps, on l'a vu, la bande dessinée, notamment américaine, fonctionne par bande, par strip. C'est-à-dire généralement 3 et parfois 4 images qui sont là pour combler les blancs, simplement, dans les journaux. Le strip, c'est un objet étrange parce que c'est un objet primitif dans l'histoire de la bande dessinée. Donc on peut penser, pour nos auditeurs, par exemple, penser à ce qu'en France on appelle Snoopy, aux Peanuts, mais aussi à Mafalda. Et jusqu'à aujourd'hui, le strip a continué d'être une forme de la bande dessinée, un sous-genre de la bande dessinée, jusqu'à Garfield, par exemple. Le strip, c'est une forme primitive de la bande dessinée, c'est la forme minimale, c'est la forme à nu de la bande dessinée. On pourrait dire que 2 cases, c'est pas encore de la bande dessinée. Pourquoi ? Parce qu'on a le rapport entre 2 images, mais on n'a pas un rapport de rapport. Alors que quand on a 3 cases, on a le rapport entre une première image et une deuxième image, mais aussi on a le rapport entre une deuxième et une troisième image. Et du coup, on a le rapport entre un premier changement, de la première à la deuxième, et un deuxième changement, de la deuxième à la troisième. Et le strip va exprimer ce rythme minimal du changement dans la bande dessinée. Il va l'exprimer en rappelant d'autres formes, au fond, de l'esprit humain, de la culture humaine. On pourrait dire que dans le strip, il y a un petit peu de l'aphorisme. L'aphorisme littéraire, le strip est toujours constitué par une sorte de pointe. Il y a toujours une pointe d'esprit dans le strip. Le strip va aussi ressembler, en quelque manière, au syllogisme. Au syllogisme logique, par exemple, un syllogisme classique, tout homme est mortel, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Le syllogisme classique dans la culture occidentale est en 3 temps, comme le strip. Ce sont 3 temps du raisonnement. Et dans le strip aussi, il va y avoir une première image qui pose un personnage faisant quelque chose, une deuxième image qui montre un changement, et une troisième image qui est une sorte de déduction des 2 premières. C'est donc une sorte de forme minimale de l'esprit. Et puis il y a une dernière forme plus poétique que rappelle le strip, c'est le haïku. Aussi 3 moments détachés les uns des autres et qui produisent un effet de flottement, un effet poétique. Donc entre l'aphorisme, le syllogisme et le haïku, il y a le strip des premières années de la bande dessinée. Le strip, c'est le rythme minimum de la bande dessinée par laquelle, pourrait-on dire, le lecteur compte 3 coups, 1, 2, 3, et il essaye de rapporter les images les unes aux autres et de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que la 3e image va venir en contradiction des 2 premières ? Est-ce que la 3e image est une sorte de déduction des 2 premières ? C'est un petit exercice de l'esprit qui peut nous rappeler, il y a une définition célèbre de la musique par Leibniz. Leibniz disait « La musique, c'est un exercice d'arithmétique caché par lequel l'esprit compte sans en avoir conscience. » On pourrait dire du strip à peu près la même chose. C'est un petit exercice d'arithmétique caché par lequel l'esprit compte, 1, 2, 3, mais sans s'en rendre compte. Le strip, donc, c'est l'esprit qui compte le changement entre des images de manière minimale. Mais dans la structure des bandes dessinées du début du XXe siècle, ce qui est intéressant, c'est que le strip était là pour occuper la semaine. C'est-à-dire que du lundi au samedi, vous aviez des strips dans les journaux. Et puis vous aviez la planche hebdomadaire qui arrivait le dimanche. Le dimanche, vous n'aviez plus simplement 3 images, vous avez une page entière de bandes dessinées. Et il s'est organisé un rapport entre la bande dessinée comme strip, la bande dessinée minimale, la bande dessinée à nu, la bande dessinée à l'os, et la structure de la planche. Dans le strip, petit à petit, on a vu émerger par ce pur exercice de l'esprit, qui est le strip, qui demande une sorte de concentration de moyens très très forte, pour faire rire avec 3 images, c'est très compliqué. Dans le strip est apparue la première figure de la bande dessinée, qui est une identité minimale, le bonhomme, et notamment le bonhomme sous la forme du gosse, du sale gosse. Pensez à Pim Pam Poum, les sales gosses qui font des bêtises. Et les gosses qui ne grandiront jamais, et qui répètent de jour en jour dans le strip quotidien leurs bêtises, à chaque fois. Et puis, on passe du strip à la planche hebdomadaire, la planche du dimanche. Et là, la planche, c'est tout autre chose. Ce qui se passe avec la planche, à partir des années 10-20, c'est que la planche va se constituer petit à petit comme une sorte de maison, l'image de la maison. Par exemple, dans les grandes planches de Winsor McCay, du Little Nemo de Winsor McCay, dont on a parlé, ou les grandes planches de Gasoline Alley, qui est une très belle série américaine, on voit comment très fréquemment, vous avez ce qu'on appelle le gaufrier, c'est-à-dire la structure de la planche, par exemple 3 images sur 4. Et ces images, par exemple, dans Gasoline Alley, fréquemment représentent une maison en train d'être construite. Et on voit les enfants parcourir de case en case la maison qu'un charpentier est en train de construire. Et donc, vous avez à la fois l'image totale de la maison, qui embrasse la planche complète au dos du journal, et en même temps, vous avez différents moments. puisque chacun des personnages apparaît dans chacune des cases. Et donc ça répond exactement à l'idée de la bande dessinée, qui est à la fois le fait de voir le monde image par image, et en même temps de le lire, de parcourir, hein, de voir le parcours des personnages dans sur cette maison. Ce qui est très émouvant, c'est que cette maison qui est en train d'être construite dans Gasoline Alley, c'est la maison dans laquelle plus tard les personnages vont vivre. Parce que les personnages de Gasoline Alley, qui sont des gosses, qui sont issus du strip, qui sont les enfants de la bande dessinée, dans cette série incroyable et de la bande dessinée primitive américaine, ils vont grandir. Tous les personnages vont grandir, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Et c'est une sorte de grand soap-opéra américain que Gasoline Alley. Ce qui est très émouvant, c'est qu'ils vont petit à petit habiter cette maison en construction et ils vont apprendre à grandir. Ben, au fond, cette question, construire la maison et apprendre à grandir, qui est la question de la bande dessinée primitive, c'est, je crois, l'essence même de cet art tel qu'il se développe aux États-Unis, en tout cas au début du XXe siècle. La bande dessinée, c'est une sorte de maison rassurante pour l'enfant qui lui assure de neutraliser le passage du temps. Parce que la bande dessinée, de case en case, d'image en image, met à plat le devenir, met à plat le changement et permet de dire à l'enfant que à la fois il va grandir, il va changer et qu'en même temps, rien de ce qu'il a été ne sera perdu. Toutes les planches, toutes les cases passées sont conservées dans la bande dessinée. Donc, la bande dessinée, c'est cette forme, notamment dans la bande dessinée classique américaine, cette forme qui représente le temps de manière strictement non tragique, et du coup la mémoire personnelle. De la bande dessinée, on a coutume de dire qu'il y a trois foyers de naissance et d'expansion. Il y a la bande dessinée américaine, dont on a un peu parlé, hein, avec les strips, les comic strips, les comics, plus tard les super-héros. Il y a la bande dessinée japonaise, qui commence dès le 19e siècle, puis qui est muselée par l'émergence du régime militariste et qui renaît en 1945 avec Tezuka. Et puis il y a cette ère culturelle qui nous est propre, qui est l'ère franco-belge, l'ère francophone et plus particulièrement la Belgique. La bande dessinée franco-belge, elle connaît, elle se développe dès le début du XXe siècle, mais elle connaît un âge d'or à partir de l'après-guerre et disons jusqu'à mai 68 à peu près. C'est ce qu'on appelle le moment. Récemment, on a parlé d'un moment franco-belge, par exemple dans une vaste histoire de la bande dessinée. Ce moment de la bande dessinée franco-belge, il est centré sur la création d'un certain type de héros. Même d'une subjectivité, d'un sujet, pourrait-on dire. Ce sujet, c'est, pour que nos auditeurs s'en fassent une image précise, ce sujet, il nous est très familier, c'est, pourrait-on dire, l'éternel Boy Scout. C'est un petit peu Tintin, un petit peu Spirou, un petit peu Johan et Pirluit, mais aussi un petit peu Lucky Luke, c'est un petit peu Lefranc, c'est un petit peu Black et Mortimer. C'est-à-dire un petit peu tous les héros de Vaillant, Tintin et Spirou dans les années d'après-guerre. Or, quand on se penche un petit peu sur ce type de héros, on s'aperçoit que la bande dessinée a produit un sujet tel que probablement dans aucun art humain on n'en avait produit jusque-là. Ce sujet, c'est en apparence un jeune garçon, toujours amical, plein d'allant, plein d'enthousiasme, qui se bat pour le bien, qui se bat pour l'amitié, qui ne vieillit jamais, qui la plupart du temps n'a pas de famille, qui est un garçon mais est asexué, n'a pas de relation sexuelle, n'a même pas de relation amoureuse, qui très souvent n'a aucune des marques de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, qui sont propres à la puberté. Alors parfois l'acolyte en a. Alors on pourrait dire Mortimer par exemple a une barbe, ou le capitaine Haddock a une barbe. Mais ni Tintin, ni Spirou, ni Johan et Pirluit, ni Lefranc, n'ont par exemple jamais de barbe qui pousse lorsqu'ils passent 3 ou 4 jours dans le désert. Hein, ils sont éternellement imberbes. Une des choses, si on essaye de s'intéresser à l'imaginaire franco-belge de l'âge d'or, par exemple, une des choses probablement les plus impudiques qu'on peut imaginer, c'est d'imaginer les tétons de ces personnages, qui ne sont jamais torse nus, parce que les tétons, on le sait, sont des caractères sexuels secondaires, comme la pilosité. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu des parodies érotiques à partir des années 60-70 de Tintin ou de Spirou, la première chose qu'on a faite, par exemple dans un pirate célèbre qui s'appelait Tintin en Thaïlande, c'était de représenter ces personnages avec une barbe de 3 jours et les mettre torse nu, afin de les sexualiser. Et afin, au fond, de montrer qu'ils n'échappaient pas au devenir organique, qu'ils étaient des corps. Car au fond, tout ce que la bande dessinée franco-belge a essayé de produire dans l'après-guerre, c'est un sujet éternellement enfantin qui échapperait au devenir des corps, qui échapperait au devenir organique.
Mais rien de plus normal, puisque cette bande dessinée s'adressait aux enfants.
Exactement, aux enfants et plus particulièrement aux garçons. Parce qu'on sait qu'il y avait, à l'époque c'était extrêmement genré, il y avait des journaux pour les filles, hein, depuis longtemps, la semaine de Suzette, etc. Mais qui souvent ne proposaient pas de la bande dessinée, qui proposaient des récits illustrés ou des petits contes, hein, avec des variations sur la comtesse de Ségur. Pour les garçons, il y avait la production de ce héros. De ce héros qui est à la fois un garçon et en même temps n'est pas vraiment sexué, qui est dur à définir. Et qui est, au fond, une sorte de création absolue de l'art de la bande dessinée. Dont on a dit le but de la bande dessinée, au fond, c'est de produire une image immobile du mouvement. C'est de neutraliser la puissance destructrice du temps. Ben, le héros de bande dessinée, dans Tintin ou dans Spirou, c'est le héros précisément qui échappe à qui est en mouvement perpétuel, puisqu'il est en train de bouger de case en case. On peut penser à un album comme L'Affaire Tournesol, par exemple, dans lequel Tintin est sans cesse en train de prendre des moyens de locomotion. Il prend l'avion, il prend l'hélicoptère, il prend le train, il prend la voiture, il bouge toujours.
Donc oui,
il court, il marche. Le héros de bande dessinée est en mouvement. C'est le sujet même du mouvement. Il est en mouvement, mais il ne devient pas. Il n'est pas soumis au devenir organique. On sait par exemple que Hergé, qui avait beaucoup de névroses, était probablement obsédé par tout ce qui concernait la vie organique, la décomposition. Pas seulement la sexualité, on sait que Hergé avait des rapports problématiques à la sexualité, mais aussi à la décomposition, à tout ce qui marque le devenir organique. On peut même penser que l'esthétique d'Hergé, qu'on a appelé plus tard à la fin des années 70 la ligne claire, avait pour but de produire un dessin, une représentation d'un monde cristallin, d'un monde pur, où toute chose était entourée par un trait, qui était là pour contenir son devenir organique. Dans Tintin, rien n'est jamais sale. Dans Tintin, rien n'est jamais... Dans Tintin, il n'y a pas de poussière. Dans Tintin, les choses ne se décomposent pas. Parce que dans Tintin, les choses sont nettement cernées. Dans Tintin, en fait, l'esthétique de la ligne claire permet au regard du lecteur de se maintenir toujours à la même distance du monde, approximativement. On n'entre jamais dans la matière et on ne fait jamais de pas de recul. Hein, la ligne claire, c'est un principe d'économie du trait qui fait que tout objet va être cerné de manière à être distinguable des autres choses, va être cerné par un trait fermé, et ensuite il va y avoir des aplats de couleurs qui vont être posés, de manière à ce que le monde soit nettement découpé. Et le but du découpage dans Tintin, comme d'une autre manière dans Spirou ou dans Tiffé Tondu, c'est au fond, pourrait-on dire, de juguler le devenir organique des choses, de faire en sorte que les choses ne se décomposent pas, qu'on ne voit pas les choses pourrir, qu'on ne voit pas les choses changer, et qu'on ne voit pas les choses avoir une forme de vie. Du coup, tous ces héros franco-belges, profondément, vont être des êtres purs, non organiques, des sortes d'idées cristallines, des sortes d'idées désincarnées, qui ne vont jamais rencontrer de femme. Et la femme va être la figure de l'autre, qui va être la figure qui va charrier avec elle la sexualité, le monde organique, la reproduction, et qui va être mise hors jeu de toutes ces bandes d'après-guerre. À ça, il y a une raison concrète qu'on connaît et qui a été étudiée, qui est la loi sur les publications jeunesse après-guerre. Il y a une sorte d'alliance politique en Europe après-guerre entre des républicains, des socialistes, des communistes, des chrétiens aussi, beaucoup évidemment en Belgique, qui vont être extrêmement inquiets de la possibilité d'une invasion du marché européen, du marché français et belge, par les productions américaines. Ils vont trouver un biais nationaliste pour se défendre de ces productions, c'est que dans ces productions, il y a des femmes. Il y a des femmes fatales. On pense par exemple aux très belles productions de Milton Caniff, qui a inspiré plus tard Corto Maltese. Dans Terry et les pirates, par exemple, il y a le personnage de Raven Sherman, qui non seulement est une femme, c'est une forte femme, c'est un personnage féminin central, qui est là même pour éduquer le personnage de Terry, qui est le jeune garçon, mais cette femme va mourir. C'est-à-dire que dans les bandes américaines, il y a la sexualité, il y a la mort. Et c'est ça qui va être mis hors jeu, au fond, par la loi sur les publications jeunesse après-guerre. Cette loi n'interdit pas formellement aux auteurs de bandes dessinées de représenter des femmes. Simplement, elle va cadrer la représentation des femmes de telle sorte qu'il n'y a pas de représentation impudique qui soit permise. Par exemple, on ne va pas pouvoir représenter les femmes avec les cheveux lâchés, Il faut que les femmes portent un foulard. C'est ça qui fait que dans les quelques scènes de foule dans lesquelles on aperçoit des femmes, dans la bande dessinée franco-belge classique, hein, dans les premiers Jacques Martin ou dans les Jacobs, les femmes portent des foulards. C'est un impératif de pudeur. On entre en bande dessinée comme on entrait dans les églises, couvertes, pas en cheveux, comme on disait. Et ça va avoir un effet sur les dessinateurs de bande dessinée, qui est que la représentation de la femme n'est pas interdite, mais elle est tellement cadrée, elle est tellement normée, qu'elle va enlever tout désir. Elle va castrer, pour ainsi dire, les producteurs de bande dessinée, qui déjà, dans leur éducation, on le sait avec Hergé, avec Franquin, sont des sortes de grands enfants qui ont des difficultés à représenter le féminin. Dans les entretiens avec Nouma Sadoul, Hergé dit qu'il n'oserait pas dessiner des femmes parce que les femmes sont trop belles et qu'il n'arriverait jamais à la hauteur de la beauté féminine qui l'intimide. C'est pour ça qu'il représente un monde d'éternels garçons, comme Franquin, comme Jacques Martin, comme Jacobs, probablement. Donc, les auteurs de bandes dessinées franco-belges classiques vont s'auto-censurer, en quelque manière, en mettant hors champ le féminin. Ils vont le mettre hors champ en s'appuyant sur cette loi qui, à la fois, les contraint et en même temps les soulage, je crois. Elle les soulage de ne pas avoir à assumer leur désir dans le dessin. C'est-à-dire que dans le dessin, ils ne vont pas représenter leur frustration sexuelle, ils ne vont rien représenter de désirable. Et c'est pour ça qu'ils vont créer un monde, pendant une trentaine d'années, extrêmement étrange, qui est le monde de la bande dessinée franco-belge, qui est un monde d'où tout désir sexuel va être expurgé. Il n'y a pas d'objet de désir. Il y a parfois un objet de désir homo-érotique qui a été beaucoup commenté chez Jacques Martin, par exemple, dans Alix. On a beaucoup glosé, et apparemment à la grande honte de Jacques Martin, sur les relations homo-érotiques qui existaient entre, par exemple, Borg et Lefranc, ou entre Alix et son jeune apprenti. La création de ce sujet, donc, qui est un sujet un peu délirant, hein, le héros de la bande dessinée franco-belge, qui est la réalisation la plus pure, peut-être, du fantasme de la bande dessinée, qui est de neutraliser la puissance du temps. En neutralisant la puissance du temps, on produit un sujet qui n'est pas soumis au devenir, donc qui n'est pas soumis à la sexualité, qui n'est pas soumis à la reproduction, pas soumis au vieillissement, aux relations familiales, qui échappe à tout ça. Évidemment, le problème de l'éternel enfant, c'est qu'elle est malgré tout, elle existe dans la société, et au fil des ans, jusqu'aux années 60, l'éternel enfant va simplement apparaître comme un vieux garçon. Je pense à une bande dessinée comme Tiff et Tondu, par exemple, où les deux personnages vont voir arriver de plus en plus de personnages féminins à mesure que le dessinateur Will essaye de se libérer, essaye d'introduire des personnages féminins, Kiki, le personnage d'Amélie Dieu, par exemple, dans la série Tiff et Tondu. Mais ils sont condamnés à ne pas avoir de sexualité. Ce sont deux vieux bonhommes qui sont simplement définis par un trait, dans un monde qui finit par les déborder. Le monde de Tiff et Tondu devient de plus en plus réaliste. C'est un monde où apparaît la contre-culture, où les autres personnages commencent à porter des jeans en pattes d'ail, où la jeunesse commence à être représentée, mais eux, la sexualité, le désir, leur sont à tout jamais interdits. Et il y a, à mon avis, une dernière raison à la création de cette subjectivité délirante qui est le vieux garçon de la bande dessinée franco-belge, c'est un imaginaire colonial refoulé. Car tous ces personnages, si on prend l'exemple de Tiff et Tondu, mais aussi bien de Spirou ou de Tintin, faut pas oublier que tous ces personnages ont été créés sur la demande en général d'éditeurs. Hein, on pense à Dupuis, on pense à l'abbé Valèze pour Tintin, hein, qui était le confesseur d'Hergé, ont été créés pour pouvoir être envoyés dans les pays colonisés. Au fond, Tiff et Tondu sont créés pour pouvoir aller chez les Pygmées. Tintin est créé pour pouvoir aller au Congo. Spirou est créé pour pouvoir aller en Afrique de l'Ouest. Le but de... Alors, pourquoi créer ces sortes de personnages, de boy scout éternels, d'éternels enfants et de futurs vieux garçons, pour les envoyer en Afrique? Je crois qu'il y a un mécanisme bizarre, dur à décrypter, qui est une sorte d'inversion par laquelle l'Europe, à force de traiter les pays colonisés comme des grands enfants, s'est représentée à elle-même sous la forme d'un éternel enfant. La bande dessinée, c'était à destination... La bande dessinée franco-belge, on parle de deux grandes puissances coloniales, c'est pas un hasard. La France et la Belgique sont les puissances coloniales majeures en Afrique, avec l'Angleterre et l'Italie, qui sont les deux autres productrices de bandes dessinées en Europe. Remarquons par exemple que l'Allemagne ou l'Espagne vont produire très peu de bandes dessinées et sont des puissances coloniales mineures. Il y a un lien profond entre le colonialisme et la production didactique, pédagogique de bandes dessinées à l'usage des enfants. Des enfants des pays colonisateurs. Au fond, ces pays colonisateurs, je crois, se sont représentés, de manière coupable, sous la forme d'éternels enfants qui allaient tendre la main aux grands enfants africain, de telle manière que Tintin ou Spirou représentent l'Europe. Ils représentent une Europe juvénile, une Europe amicale, qui, on le voit, est toujours là pour punir les méchants colonisateurs qui apparaissent dans les bandes dessinées, qui sont ceux qui se comportent mal avec les indigènes. Et pour se situer sur une sorte de plan d'égalité avec le colonisé. Puisque les colonisés sont des grands enfants, bah l'Europe se représente comme un éternel enfant, amical, ami, partout toujours, comme disait le slogan de Spirou, qui va aller tendre la main aux peuples africains. Et pourquoi cet enfant éternel? Pourquoi cet enfant qui vieillit pas? Je crois que ça naît de la conscience et de la peur européenne au début du XXe siècle de voir que l'histoire allait jouer contre elle. L'Europe a conscience du fait que son règne colonial va prendre fin, que l'histoire est en train de jouer contre une Europe vieillissante, une Europe qui commence à se représenter comme vieillissante, une Europe qui sait que bientôt, 10, 20 ans plus tard, inéluctablement, elle va perdre son rôle de centre du monde. Et pour compenser ça, elle représente auprès des enfants, elle se représente elle-même sous la forme d'un enfant éternel, qui neutralise l'histoire, qui restera toujours le même, et qui amicalement ira serrer la main des peuples colonisés. Donc je crois qu'au fond, Tiffé Tondu, Tintin, Spirou, il faut savoir regarder en face, pour l'amateur de bande dessinée, dans les querelles qui naissent aujourd'hui dans la conscience postcoloniale. Je pense par exemple à toutes les querelles autour de la republication ou non de Tintin au Congo. Il faut regarder en face le fait que ces personnages sont l'incarnation enfantine de la conscience coloniale. Et que sans la conscience coloniale, il n'y aurait pas eu ces éternels enfants de la bande dessinée franco-belge. Ce qui est très beau avec la bande dessinée, c'est qu'elle a été adolescente en même temps que le siècle. Si la décennie de l'adolescence au XXe siècle, ce sont les années 60, l'apparition de la contre-culture, mai 68, la bande dessinée a connu, dans la plupart de ses traditions, dans la tradition franco-belge, mais aussi dans la tradition japonaise et dans la tradition américaine, a connu une sorte de crise d'adolescence tout au long des années 60. Qui est lié probablement à l'allongement plus que de raison de son enfance, dont on a parlé la dernière fois. Cette adolescence, je crois qu'elle s'est exprimée par trois canaux, pourrait-on dire. Le premier, c'est une sorte de conscience critique, ou de retour critique précisément sur cette enfance qui a duré trop longtemps. Cette conscience critique, elle va apparaître dans des bandes humoristiques très tôt. On pense au magazine Mad, par exemple, aux États-Unis. Et puis, on pense évidemment à l'œuvre, dans notre tradition, à l'œuvre de Gottlieb, et à la moquerie qui va accompagner la conscience petit à petit de ce qui sont devenus des clichés de la bande dessinée. Et on va revenir vers les figures enfantines de la bande dessinée, on va les plonger dans un univers adolescent, alors au choix ironique, sardonique, on peut penser à Crumb, au Fritz the Cat de Crumb aussi, par exemple à la récupération de toutes ces figures d'animaux parlants, de funny animals de la bande dessinée enfantine, qui vont être plongées dans un univers humain, dans une société où la sexualité, l'argent, le rock sont présents. Ce sont les freaks américains, c'est Fritz the Cat, c'est aussi petit à petit dans l'histoire de la bande dessinée cette manière d'utiliser les figures innocentes et enfantines de la bande dessinée dans un monde devenu adulte. On pense évidemment bien plus tard à Maus de Spiegelman et à l'usage des animaux anthropomorphes dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. On peut penser plus tard à un auteur comme Jim Woodring qui, dans une bande dessinée muette qui s'appelle Frank, utilise dans un univers extrêmement psychédélique qui semble sorti précisément des années 60 de Haight Ashbury, des personnages qui ressemblent très fortement aux archétypes de Disney ou de Karl Barks. Donc d'une part, il y a la conscience critique qui marque l'apparition d'une sorte de conscience nerveuse adolescente de la bande dessinée qui revient sur son propre héritage et qui, en le critiquant de manière distanciée, ironique, apprend à sortir de l'enfance. Être conscient de l'enfance, c'est déjà en être sorti. Il y a une phrase célèbre d'Altenberg où Altenberg dit « l'enfance cesse le jour où on en a conscience. L'enfance, c'est celui qui n'a pas conscience d'être enfant. » Le deuxième point, c'est que le revers de cette conscience critique, ça va être l'impression d'une sorte de perte d'innocence aussi, à partir de l'âge adolescent de la bande dessinée. Et il va y avoir tout ce moment où la bande dessinée, en revenant sur son histoire et en revenant par exemple sur l'esthétique de la ligne claire, va avoir l'impression d'une innocence perdue de manière inéluctable. Et dans la génération de ceux qui vont essayer de refaire de la ligne claire, des gens comme Ted Benoît, comme Flock, des gens évidemment comme Yves Chaland.
Yves Chaland, ça va.
Chaland, vous voyez, au fond, tient ensemble les deux parties, la conscience ironique, la conscience nerveuse et en même temps le sentiment d'une perte d'innocence. Quand il fait Freddy Lombard, on a l'impression qu'à la fois il sait qu'il ne pourra pas refaire Tintin, il reproche aussi à ses aînés de ne pas avoir plongé les personnages de la bande dessinée dans le monde réel, donc il va faire Vacances à Budapest pour essayer de traiter de ce qui se passait vraiment en 56, au moment où les personnages de bande dessinée, au fond, tournaient le dos au monde réel, et en même temps il va faire, par exemple, le jeune Albert, qui pourrait être une version sardonique grinçante de Quick et Flupk. Donc, la crise d'adolescence, elle se manifeste d'abord par une conscience. La bande dessinée devient consciente d'elle-même et, en étant consciente, a aussi le sentiment de perte d'innocence qui est le propre de l'adolescence. Puis il y a deux autres canaux importants qui vont être l'introduction de la sexualité et la conscience de la mort. L'introduction de la sexualité, c'est l'irruption progressive de plus en plus de personnages féminins désirables dans une bande dessinée, notamment franco-belge, dont on a vu que du fait notamment de la loi sur les publications destinées à la jeunesse, les femmes étaient exclues. Et on voit apparaître petit à petit des personnages, on pense à Natacha, l'hôtesse de l'air, par exemple, mais aussi ses cotines dans le monde de Spirou, par exemple, qui vont représenter des personnages féminins qui vont défier les personnages masculins. Ça va culminer dans des personnages qui vont faire fantasmer des générations de garçons dans le monde franco-belge, que sont, un peu plus tard, par exemple, le personnage de Chihuahua Pearl dans Blueberry et le personnage de Chris de Valnor dans Torgal, qui sont des personnages féminins très forts qui vont venir tenter le personnage principal et jouer avec le fait que, en bande dessinée, normalement, le héros tel qu'il a été constitué ne peut pas se livrer à une femme, qui évidemment va venir le tenter et jouer avec ses limites. Et puis, à côté de l'apparition des femmes et du désir dans la bande dessinée, alors, soit autour des héros classiques, dont on a parlé, soit tout simplement avec l'apparition de l'explosion de la bande dessinée érotique à partir des années 60 et surtout dans les années 70, Cuvelier faisant Epoxy, par exemple, avec Van Damme, et puis toute la bande dessinée italienne, évidemment, qui va populariser ça. Mais le troisième point est peut-être le plus intéressant, parce que c'est le moins connu. C'est l'irruption petit à petit d'une sorte de conscience de la mort dans la bande dessinée. La mort en bande dessinée a toujours été un problème parce qu'on a vu que la forme même de la bande dessinée était liée à une sorte de neutralisation du passage du temps. La bande dessinée, c'est initialement ce qui dit à l'enfant « Regarde, tous les moments du temps sont intégralement conservés, aucune image ne détruit l'image précédente ». Du coup, longtemps, la mort a été déréalisée en bande dessinée. Si on pense à Tintin, par exemple, on sait qu'il y a très peu de morts dans Tintin. Et lorsque la mort surgit dans Tintin, c'est souvent pour l'enfant très choquant. Je me rappelle une première lecture, par exemple, de L'oreille cassée, et d'être toujours très choqué par les cases finales, où les deux brigands, d'une manière absolument non réaliste, sont envoyés en enfer, si vous vous souvenez, dans la case, à coups de pique par des démons qui les envoient dans le monde infernal. Où il y a aussi cette mort hors champ poignante, et un peu gênante lorsqu'on est enfant, qui est le sacrifice de l'ingénieur Wolf dans Objectif Lune. La mort est globalement hors champ ou déréalisée, on ne sait pas très bien comment faire mourir en bande dessinée. Puis la mort va arriver petit à petit. Par exemple, dans la bande dessinée franco-belge, il y a un certain nombre de moments cruciaux. Je pense à une série qui était jadis assez populaire, qui est Bruno Brasil. Et dans le dernier volume de Bruno Brasil, qui est dessiné par William Vance, la moitié du commando qui est mené par le personnage de Bruno Brasil, meurt soudainement dans une fusillade. Et on voit le personnage porter le deuil des personnages auxquels le lecteur était habitué dans le magazine Tintin et qu'il ne retrouvera pas. Il y a plusieurs deuils importants comme ça. Le deuil de Bruno Brasil arrive assez tard dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge, alors que par exemple dans la bande dessinée américaine, il y avait déjà eu un deuil très important, qui est en 1941 la mort de Raven Sherman, personnage de Milton Caniff dans Terry et les Pirates, dont on a déjà un peu parlé, et qui dans un épisode qui s'appelle Raven Nevermore, très beau titre puisqu'il fait référence au poème d'Edgar Poe, Nevermore, la phrase qui est répétée par le corbeau dans le poème d'Edgar Poe, Raven est tuée, elle est tuée par le capitaine Judas. Et les journaux ont été inondés de lettres de lecteurs qui, un peu comme la mort de Sherlock Holmes qui avait été décidée par Conan Doyle, n'acceptent pas de voir un personnage là, de bande dessinée mourir. Car la mort, c'est l'introduction dans un art qui nous assure que rien, au fond, n'est jamais irrémédiable, qu'on peut toujours revenir en arrière, que le devenir, que la vie n'a pas de place dans une sorte de mouvement éternel par lequel l'œil balaye des images qui s'enchaînent les unes aux autres et en boucle de telle manière qu'on peut toujours revenir à l'image précédente, etc. La mort, ça devrait être la représentation d'une dernière image qui annule et qui anéantit toutes les images précédentes. Mourir, c'est une dernière image qui annule tout ce qu'il y a eu auparavant et qui amène au néant. Or, au fond, il n'y a pas de néant en bande dessinée. Il n'y a pas de néant parce que il y a une chaîne infinie d'images pour l'enfant. Du coup, la mort va être une sorte de défi pour la bande dessinée et pour l'espèce de crise d'adolescence que la bande dessinée va vivre dans les années 60-70. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui s'est développé dans à peu près toutes les traditions de bande dessinée. Si on pense au Japon, la crise d'adolescence japonaise, c'est le passage du manga classique à ce qu'on appelle le Gekiga, donc l'image dramatique, qui est nommée par Tatsumi en 57 et qui va se développer dans les années 60. Au fond, le Gekiga, c'est un certain nombre de jeunes auteurs, on pense à Takao Saito par exemple, ou Matsumoto, qui vont essayer de tuer le père. Le père, c'est Tezuka. Tezuka, c'est celui qui a créé le manga et c'est celui aussi qui a créé la figure de l'enfant éternel dont on a parlé à propos de la bande dessinée franco-belge, elle existe aussi dans le manga, c'est Astro Boy. Ou pour les filles, c'est Princess Knight, qui change sans cesse d'identité. Et le Gekiga, ça va être l'apparition d'une bande dessinée aux traits beaucoup plus durs, qui s'adresse à un public beaucoup plus adulte, le public de ce qu'on appelait les bibliothèques de prêt au Japon, un public qui travaille, un public d'ouvriers aussi par exemple, qui veut voir la réalité sociale et qui veut sortir de cette bande dessinée éternellement enfantine, très influencé par le trait disneyen. Donc on va avoir cette bande dessinée qui va s'intéresser au monde de la boxe, à la violence, qui va adopter des thèmes durs inspirés du cinéma américain. Je pense au personnage de Golgo 13, par exemple, de Takao Saito. Et ça va mettre en crise la figure de la bande dessinée enfantine qui était Tezuka. Et Tezuka va lui-même faire des œuvres adolescentes dans ces années-là qui vont introduire la mort et la sexualité. Sur la sexualité, je pense à une bande dessinée très originale qui s'appelle Barbara de Tezuka, dans laquelle le héros tombe amoureux de diverses incarnations d'une femme idéale qui à un moment va s'incarner pour lui dans un chien. Il va tomber amoureux d'un chien qui lui semble être une incarnation de la femme, ou même dans un mannequin. Et donc il y a une sorte d'ouverture de pansexualité soudaine où, comme souvent chez Tezuka, les identités et la vie ne cessent de passer par toutes les entités du monde, de telle sorte que la sexualité envahit tout. Et ce qui est intéressant, c'est que Tezuka, confronté à la crise d'adolescence du Gekiga, va intégrer la mort et la sexualité dans sa bande dessinée, mais pour aller vers une forme supérieure qui va se réaliser dans son œuvre majeure qui est Phénix, qui va vers le samsara, le cycle des âmes. Et du coup, dans Phénix, les personnages ne cessent de mourir, mais ils ne cessent aussi de renaître. Parce qu'en fait, ce qui apparaît, avec ce qu'on comprend dans l'œuvre tezukienne, c'est que même si la bande dessinée représente la mort, en faisant sa crise d'adolescence, comprend la mortalité, la sexualité, la mortalité, le mouvement de la vie, la bande dessinée, au fond, ne peut pas s'arrêter avec la mort. La bande dessinée continue.
Si vous voulez réécouter cette émission, la podcaster, la partager, vous trouverez tout à votre disposition à la page des émissions Un autre jour est possible ou Tête chercheuse, disponible sur franceculture.fr. Samedi prochain, je serai avec Annie Sartforia pour parler de Palmyre.